Actu SF, les podcasts.
Bien, bonjour et bravo pour votre persévérance et votre intérêt continu pour ces différents sujets autour du corps. Aujourd'hui, nous prenons la suite de Frankenstein. Nous allons parler d'une autre manière de modeler le corps, et cette fois-ci plutôt au féminin, puisque un des enjeux dont vous avez pu entendre parler, si vous étiez là, mais de toute façon, vous le savez bien, un des problèmes de Frankenstein, c'est qu'il n'arrive pas à se faire modeler une compagne. Et cette question du corps au féminin et de la fabrication du corps va être un peu au centre de nos réflexions. La question de la création du corps féminin dans l'imagination. Hein, nous n'allons pas parler de gestation pour autrui ou ce genre de choses aujourd'hui, en tout cas. Nous allons parler du travail de l'imagination. Alors, pour commencer, une petite référence mythique qui m'a semblé assez savoureuse, que j'en ai repris les détails, c'est l'histoire de Pygmalion. Pygmalion, dont on parle souvent, enfin, on parle de, voilà, c'est son Pygmalion, on parle de, c'est plutôt utilisé de façon assez positive. Quand on regarde dans les détails la façon dont cette histoire est conçue, dont ce mythe est rapporté, on s'aperçoit que Pygmalion, c'est donc ce sculpteur qui a sculpté une statue magnifique de Galatée, son idéal féminin, en fait. Il l'a sculpté comme il l'a souhaité. Alors, la raison pour laquelle il l'a fait, c'est parce que les femmes de sa société, à Chypre, lui convenaient pas du tout. Elles étaient impudiques, elles ne savaient pas se tenir à leur place. En fait, en gros, elles exigeaient notamment de dominer, hein, dans la relation homme-femme. Et que ça lui plaisait pas du tout. Et donc il a fait cette magnifique statue de Galatée qui a beaucoup plu à Aphrodite, la déesse, qui du coup a animé la statue. Il a pu obtenir donc son idéal en chair. Alors, on ne sait pas très bien si une fois animée elle est restée en pierre, mais enfin en tout cas il en a été heureux. Et pendant ce temps-là, inversement, les méchantes femmes ont été transformées peu à peu en pierre. Elles-mêmes se sont durcies du fait de leur méchanceté, parce qu'elles étaient vraiment pas faites pour vivre, hein, dans notre monde, hein, puisqu'elles elles revendiquaient une forme de liberté, finalement. Alors ce mythe-là, il est intéressant. Évidemment, il n'est pas raconté comme ça. Hein. Ovid ne le présente pas de cette manière. Mais cette manière de présenter les choses, c'est-à-dire d'une double contrainte, soit de la valorisation de la femme créée, imaginée dans son fantasme idéal, un idéal dont on va essayer de poser les éléments, et inversement la contrainte d'une certaine soumission au fait que réciproquement, disons, les aspects de libération du corps féminin dans une hypersexualisation a pour réciproque donc la contrainte, hein, imposée dans la société. Ce sont des questions qui vont nous servir un peu de polarité de départ pour réfléchir à la façon dont actuellement le corps féminin est envisagé dans un ensemble de médias, dans un ensemble de supports, d'évaluer où nous en sommes par rapport à ce qu'on a appelé dans les études féministes le male gaze, le regard masculin, l'idée qu'il y a une configuration spécifique des femmes imposée par l'idée que le regard est fondamentalement masculin. Et pour en parler, en littérature comme dans le domaine du jeu vidéo, eh bien, nous aurons deux invités et une crypto-invitée qui vient d'arriver. Une première invitée, Elisabeth Vandenbourg, prix extraordinaire des Utopiales. Hein, c'est tout récent et c'est évidemment profondément mérité, bien sûr, du fait, vous le savez, de son œuvre considérable en science-fiction et en fantasy, œuvre qui s'étend au-delà, évidemment, de ses écrits à proprement parler, puisqu'il y a son investissement dans le champ de la science-fiction qui a été récompensé ainsi. Parmi ses ouvrages récents, vous en voyez certaines couvertures, La Voix des Roses, La Voix des Pierres, c'est présenté comme un cycle, mais est-ce que c'est un diptyque? J'ai pas eu le temps de... C'est une trilogie, donc le troisième est encore à venir. Non. Alors, précisez.
Le troisième, et on en a apporté quelques exemplaires pour vous prouver qu'il existe d'abord. Ah. Et ensuite, il sortira officiellement en librairie la semaine prochaine, je pense.
Donc, il est
La trilogie est terminée.
Voilà, la trilogie est terminée. Donc, quand je disais à venir, je voulais dire que vous le trouviez pas forcément, mais oui, vous pouvez le trouver apparemment aux Utopiales en exclusivité. Parmi les ouvrages qui personnellement m'ont beaucoup marqué, il y a Chronique du pays des mers, mais nous aurons peut-être l'occasion de parler aussi des autres cycles. Cycle de Tiranael, cycle de Reine de mémoire, lors de cette réflexion et au-delà de ça, de ce que signifie créer un personnage féminin en littérature. Pour la partie art visuel, David Javet, qui est un doctorant, qui mène un projet de thèse lié aux représentations du technologique dans les franchises de science-fiction au Japon, et qui est également acteur en termes de jeux vidéo. Il développe des jeux au sein du collectif Chagata Games et il est curateur dans divers festivals comme Numeric Games ou Ludicious. D'une manière générale, c'est quelqu'un qui est un peu des deux côtés de la barrière en termes de réflexion sur les jeux vidéo, si je m'abuse.
Voilà, enfin, en partie, disons, la raison aussi... de mon intervention ici s'inscrit, disons, dans des recherches que j'ai menées autour des idoles virtuelles au Japon, idoles virtuelles ou physiques, et aussi sur le cinéma de romance au Japon.
Et donc, crypto invité sur laquelle nous comptons en cours de route pour également nous parler de la création de personnages féminins dans les jeux vidéo, Sabrina Calvo, que j'invite dès à présent à s'emparer d'un micro sans fil pour intervenir à volonté lors de notre table ronde. Et par ailleurs, j'ai pour habitude de donner la parole au public assez rapidement dans la séance. Donc, vous pourrez également poser vos questions d'ici une vingtaine de minutes. On va se chauffer un petit peu d'abord, et puis voilà, vous pourrez ensuite en discuter. Alors, j'aimerais commencer par poser un petit peu un état des lieux, déconstruire un petit peu cette question de la création du corps, hein, vraiment de la corporéité imaginaire au féminin. Et de ce point de vue-là, est-ce que nous pouvons poser quelques jalons en termes de l'historique contemporain, hein, depuis disons un siècle ou deux, voire depuis une ou deux décennies, hein, ça dépendra de la temporalité des différents médiums. Poser quelques jalons sur la façon dont justement on a pu concevoir le corps féminin, les représentations du féminin dans les arts visuels et la littérature, ceux qui vous occupent, hein, évidemment, en priorité, on ne va pas les passer tous en revue. Qui souhaiterait prendre la parole en premier ? Elisabeth ? David ?
Compte tenu de l'importance du visuel aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va être un peu difficile de parler de la littérature et de la fabrication du corps avec des mots. Donc, j'ai l'impression que ce serait plutôt à David de commencer.
On peut, si besoin est, on peut enlever les images. Là, mais...
Non, non.
Ok. Parce que là, je vois que ça va tourner pendant toute la...
Oui, il ne faudrait pas que ça vous hypnotise.
Ouais.
C'est des images fascinantes.
Je vais prendre le problème en référant au travail d'une de mes collègues de l'Université de Lausanne, Mireille Berton, qui a écrit un article remarquable qui s'appelle « La technologie a-t-elle un sexe ?» qu'elle a publié dans la revue Arcaille. Dans lequel elle réfléchit à la manière dont on va justement imposer un sexe à la technologie. On va imposer la binarité masculin-féminin à la technologie. Et puis pour ça, elle se base notamment sur les travaux de Geneviève Cellier, qui a beaucoup travaillé sur les rapports entre culture de masse et culture populaire, qui me semble vraiment centraux, en fait, ben, notamment aux Utopiales ici, mais aussi à l'heure actuelle dans une construction médiatique qu'on est en train de faire, où les cultures populaires prennent de plus en plus de place dans notre consommation journalière, où Geneviève Cellier montre comment déjà au 19e siècle les discours d'élite ou la manière dont la culture d'élite va en fait créer un rapport aux cultures populaires va créer vraiment l'idée des cultures populaires, et puis plus particulièrement comment ils vont subjuguer les artefacts techniques et l'arrivée de chaque nouvelle technologie à la binarité. Et un exemple assez intéressant par rapport à ça, c'est tous les discours que vous pouvez trouver dans la presse, par exemple, qui vont associer l'idée d'une castration au téléphone portable. Vous avez énormément, par exemple, d'idées qu'en gros, les téléphones mobiles, si les hommes les portent à côté de leur appareil génital, ça va les castrer. Ça va, comme si la présence tout à coup d'une nouvelle technologie, d'un nouvel appareil technologique, pouvait les affecter. Donc en fait, les discours de la culture d'élite vont justement réutiliser la binarité pour justement défendre l'idée que les œuvres, disons, les œuvres de la culture d'élite sont construites autour d'une idée de création, d'unicité, d'authenticité, d'autorisation. Face à une culture populaire qui, elle, va plus s'inscrire dans des idées de reproductibilité à l'infini. Hein, on pense évidemment à la sérialité, aux franchises. Enfin, on est vraiment là-dedans dans les cultures populaires, et qui, ça, va, enfin, de ce côté, va plus être attribué en fait à des critères féminins. En cela, en fait, il va y avoir vraiment une intégration systématique des nouveaux artefacts techniques selon des critères de mise en danger du corps de l'homme. Ça me semble, disons, intéressant comme manière, disons, d'aborder des objets comme justement le jeu vidéo, qui s'inscrivent dans des processus de sérialisation industrielle très importants.
Alors là, il y a tout de même une dimension de projection, enfin de configuration précise d'un ensemble de caractéristiques, ce qu'on peut appeler des éléments d'attraction sur la façon dont on va identifier certains éléments qui vont attirer le consommateur de jeux vidéo. Mais avant d'aller directement, enfin d'aller trop sur ces questions-là, ces questions de conformation visuelle, j'aimerais tout de même interroger cette binarité, cette façon dont le pôle masculin, le pôle féminin est envisagé dans le cadre de la narration. C'est-à-dire à quel moment, et je me tourne sur la question de la narration en général, vers Elisabeth von Harburg, à quel moment est-ce que il devient possible en littérature d'envisager un personnage féminin qui soit un personnage dynamique, un personnage qui ait une épaisseur dans la narration, à quel moment est-ce que ça devient possible dans la société? C'est-à-dire qu'il y a eu pendant assez longtemps une survalorisation du personnage masculin central, au contraire, la possibilité qu'émergent des figures féminines historiquement, c'est fait de façon très progressive.
Oui, je souris. Parce que c'était la naissance du roman, finalement, avec La princesse de Clèves, où on a le personnage central qui est la princesse de Clèves. Et l'épaisseur est purement psychologique. L'action étant réservée au mâle qui arrive, c'est merveilleux, au moment du bal, le héros masculin arrive en sautant par-dessus les bancs, parce qu'il est en retard. Symbole de légèreté, de caprice, et de, bon, c'est la sexualité qui envahit le bidule. Mais la princesse de Clèves, justement, ne va pas céder à cette chose-là. Mais l'épaisseur qu'on sent aux femmes, c'est une épaisseur psychologique, et c'est ça qui va, en général, animer le roman. Petit à petit, ça continue dans ce sens-là. Ce sont des objets d'amour, plus souvent que des sujets amoureux. Mais disons que l'arrivée du corps ne se fera que dans les littératures vraiment populaires ou bas de gamme ou les feuilletons. Je me rappelle avoir lu des romans d'Eugène Sue où vraiment ça sue. Enfin, c'est ou alors Zola, etc. Ou là, mais c'est une question sociale. Les basses classes ont un corps, les autres n'en ont pas. Bon. Ou du moins il est réglementé, il est encadré, etc. Alors que justement les classes sociales inférieures ont un corps non réglementé, et c'est ça qui les rend dangereuses. Maintenant, si on aborde la science-fiction, les genres, disons la science-fiction, les femmes ne sont pas présentes comme agents, elles sont présentes encore une fois comme objets. Alors c'est, bon, la blonde idiote qui pose les questions à qui on peut répondre, c'est la blonde idiote qui se fait enlever par l'extraterrestre pustuleux, c'est, enfin bon.
Je repense, moi, à la figure de l'Héloïse dans La machine à voyager dans le temps, où le personnage féminin est réduit à son...
Oui.
C'est une femme enfant et qui est enlevée.
Le
prototype du récit est déjà là.
Oui, c'est ça. Alors, pour moi, il a fallu attendre les premières vagues féministes dans la science-fiction pour que les femmes commencent à exister en tant que corps. Mais d'abord un corps relativement habituel, c'est-à-dire par exemple si on prend le fameux texte de Judy Merrill, That Only a Mother, Seule une mère, où on a une mère qui met au monde un enfant dans un monde irradié, et elle ne le voit pas comme... Et l'enfant, il lui manque des bras, etc. Et elle ne le voit pas comme ça. Mais c'est son... Elle est là en tant que mère. Elle est là en tant que ventre qui a produit un enfant. Mais cet enfant qui est une fille, elle ne la voit pas comme monstrueuse. C'est le père, quand il revient de l'espace, qui... Bon. Là, moi, personnellement, parce que je vais pas... Des opinions, j'en ai comme tout le monde. Enfin, je suis capable de tenir ma place au Café du Commerce comme tout le monde, mais là où je peux avoir un peu plus qu'une opinion, c'est en tant qu'écrivaine et que lectrice de science-fiction. Et personnellement, en tant que lectrice de science-fiction, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir l'absence des corps de femmes dans les textes, et dans mes propres textes d'ailleurs. Et justement, où j'ai commencé à me dire, mais enfin, les personnages, ils ont un corps, ils habitent quelque part. Ils attrapent la grippe, ils vomissent, ils pissent, ils chient, ils baisent, ils mangent, s'il vous plaît. Bon, mais ça n'existait pas. Alors, on a commencé à le faire un petit peu pour les hommes, mais alors les femmes, là, c'était absolument scandaleux. Alors que dès au XVIIIe siècle, on avait... C'était le XVIIe ou le XVIIIe, Jonathan Swift
Swift, c'est le XVIIIe.
XVIIIe. Jonathan Swift, hein, qui était follement amoureux d'une femme qu'il appelait Stella, à un moment donné, il a une espèce d'épiphanie qui s'exprime dans ses carnets dans « Mais Stella chie !» Bon, alors ça, c'est ce que j'ai l'habitude de dire à mes gens en atelier d'écriture. Est-ce que votre Stella chie? Parce que il y a une fuite du corps dans les genres, et en particulier la science-fiction, qui est encore bien valide aujourd'hui, parce que c'est encore un genre relativement adolescent pour ceux qui commencent à le pratiquer. En général, sont encore soit des adolescents attardés, soit des jeunes adultes attardés. Excusez-moi. Mais et la présence du corps est souvent un problème. Et donc, on fait l'impasse dessus. Bon, personnellement, j'ai essayé systématiquement dès mes premières nouvelles. Et vous parliez de Pygmalion tout à l'heure. Ma nouvelle Janus, qui est une des premières nouvelles que j'ai publiées, reprend ce motif où vous avez un créateur du futur qui crée des artefacts, qui sont en fait des androïdes, et qui crée, après la mort tragique de sa femme et de leur enfant, il crée une femme, une androïde, qu'il appelle Galtea. Et lui s'appelle Permalion. Bon, ok, clin d'œil. Et quand son élève, qui est aussi un peu son amant, ou du moins qui voudrait l'être, sans le savoir, lui demande pourquoi il l'a créé, et Permalion lui répond pour qu'elle s'en aille. Ce qui était pour moi complètement une autre étape du rapport à la femme, pas seulement dans son corps, mais sûrement à la femme de cour. Et il me semble que le problème aussi, c'est que le corps de la femme dans la science-fiction ou dans la fantasy, c'est toujours la femme jeune. C'est toujours la femme jeune. Ok, elle peut être petite et costaude, elle peut faire des arts martiaux, mais elle est jeune. Alors j'aime bien voir des vieilles femmes qui font du karaté, moi. C'est bon. Mais comme disaient Ursula Le Guin et quelques autres, quand on arrive à 50, 60, 70 ans, on devient invisible. Et c'est une tendance qui est... contre laquelle luttent beaucoup d'auteurs féminins ou d'autrices ou d'autoristes, bon, peu importe, d'écrivaines féminines et féministes, elles essaient de mettre en scène tous les âges de la femme. Parce qu'enfin, il y a la vierge, il y a la matrone, qui est celle qui est d'âge mûr et qui a les enfants, et puis il y a la vieillarde. En anglais, c'est « the crone », qu'on traduit un petit peu abusivement par « la sorcière ». Ben non, c'est pas la sorcière. C'est la femme âgée qui a l'expérience, qui a la sagesse. Et Le Guin a écrit un article merveilleux sur la question en disant, mais il y a là un pouvoir dont nous devrions nous emparer, que nous devrions revendiquer, parce que maintenant nous savons et nous pouvons. et nous sommes libérés d'une partie du corps qui a servi à nous rendre esclaves, qui est la partie reproductive. Bon, je pense que j'ai suffisamment tenu mon bout là pour l'instant.
Mais alors, j'aimerais enchaîner sur la question de l'impasse sur le corps, enfin du comment dire, de la façon dont et dans la construction de l'artefact visuel, il y a simultanément dans cette, pour reprendre, pour suivre, prolonger les réflexions déjà engagées, il y a cette manière de représenter le corps de façon idéalisée et parfois de façon très très matérielle. Hein. Il y a vraiment dans certaines des figures qu'on voit ici, là par exemple ici une Lara Croft Nouvelle Manière, il y a une façon de voilà de faire sentir une matérialité du corps et de donner plus d'épaisseur à la fois psychologique dans le corps lui-même en fait des personnes. Mais on est toujours potentiellement dans une façon de mettre à distance le personnage féminin.
Je valide tout à fait ce ressenti. Ça me fait énormément penser à une chercheuse en cinéma qui m'a énormément influencé, qui s'appelle Linda Williams, que vous connaissez peut-être. Qu'a créé une catégorie, une typologie sur ce qu'elle a appelé les body genres, donc les genres en sens de genre, pas de gender, du corps. Et elle a eu une sensibilité assez incroyable déjà à l'époque où elle a créé ça, où elle a tracé en fait des liens entre trois genres dans les années 80, qui sont le mélodrame. Le cinéma d'horreur slasher, donc vraiment gore, et puis le cinéma pornographique. Et puis ce lien, elle le trace plus que dans évidemment le contenu des films, elle le trace dans le corps des spectateurs. Puisque en fait c'est trois genres qui impliquent une mimésis, qui impliquent en fait une position au miroir en fait, le cri à l'écran va être reproduit par le spectateur. Les pleurs à l'écran vont être reproduits par la spectatrice ou le spectateur. Et puis, pour le cinéma porno, je vous laisse n'entrant pas trop dans les détails. Mais enfin, évidemment, c'est une recherche qui est centrale parce que elle a permis de mettre au même niveau des genres qu'on n'aurait pas tendance justement à déjà reconvoquer dans les études en cinéma à une époque où ça se faisait évidemment pas du tout, et un retour au corps de la spectatrice qui était central. Et puis pour moi ce qui a été très marquant au-delà de ça, alors il y a énormément de choses à dire sur évidemment chacun de ces genres. Le mélodrame, je pense que, et je suis tout à fait d'accord avec Elisabeth von Harburg dans l'idée qu'il y a besoin de réinvestir aussi, de réinvestir certaines œuvres. Au niveau de la recherche, il y a besoin de réinvestir le mélodrame. C'est un des grands genres invisibilisés. Il y a besoin de réinvestir les formes du jeu de l'amour, comment on l'écrit et autres. Et puis, et c'est quelque chose qui est en train de se faire maintenant. Heureusement, dans la recherche, on travaille énormément justement sur la littérature de gare, sur toutes ces formes de sérialité, ce qui est extrêmement positif. Et puis, je pense, côté du cinéma d'horreur, ça nous a permis aussi de voir comment dans ce rapport évidemment aussi aux technologies, quelque chose de très intéressant dans le cinéma de slasher que montre notamment Linda Williams mais aussi d'autres théoriciennes féministes du cinéma, c'est comment en gros on se situe dans un cinéma des années 70-80 qui s'inscrit après l'émancipation de la jeunesse, et où systématiquement on est dans des films où la technologie fait faux bond. La technologie, qui une fois de plus est régulièrement féminisée dans les discours, fait faux bond aux héros et aux héroïnes. On est face à des tueurs qui vont plutôt utiliser des formes de l'artisanat campagnard, hein, qui sont stables, des marteaux, des faucilles. Et puis systématiquement dans ces films, on veut utiliser le téléphone, il marche pas, les câbles électriques cassent, et donc on a toute une représentation de la technologie qui pour le coup, ben voilà, fait faux bond à la jeunesse, la détruit, la tue, et une sorte de mise en garde assez intéressante de cette émancipation.
Alors,
par ailleurs que dans la SF, hein, mais je pense que des ponts sont intéressants.
J'aimerais me tourner un petit peu vers Sabrina Calvo si elle le veut bien pour une réaction sur la question en général de la formation du corps dans le jeu vidéo, ou sinon je peux pointer un peu plus directement la question, mais...
Non, ça ira, merci.
Sabrina Calvo.
Évidemment, c'est un peu problématique de pour moi d'être sur scène quand on est déjà dans une lutte pour faire exister le corps de la femme dans la création. Moi, je peux donner mon point de vue par rapport à une chose qui me semble importante de souligner, notamment dans la manière dont on décrit les corps transgenres dans la création, c'est que le corps transgenre n'existe quasiment pas dans la création, que ce soit en littérature, oui, en SF plus particulièrement, dans le jeu vidéo, dans le cinéma, c'est des choses qui ont été aberrantes de penser exister avant avant les années 80 vraiment. Enfin, on l'a vu de manière extrêmement soit underground, soit soit de manière sensationnaliste. Mais moi, il y a un truc que je veux dire qui est quand même très important, qui est que la personnification du corps féminin, ou en tout cas du corps masculin, fonctionne aussi avec la manière dont on est présent en ligne, en fait. On se rend pas compte à quel point les mouvements transgenres ont pu exister parce que nous avons pu avoir des avatars. Nous avons pu avoir une personnification de notre corps imaginaire, pour le coup, en ligne, que ce soit sur des forums, les premiers BBS, que ce soit ICQ, que ce soit les chat Yahoo, les années 90. On a pu exister, on a pu faire exister nos corps. On a pu faire exister nos corps en dehors d'une certaine idéalisation ou d'une certaine normalisation de ce que devrait être un corps faible ou pas, qu'importe. Et je pense qu'aujourd'hui, on mesure pas l'importance de la création du public, en fait, et pas simplement des auteurs, dans la manière dont les corps existent en ligne et dont ils impactent la création à part rebond, en fait. Et tout ce monde en ligne, tout ce monde virtuel, là, qui vit, qui travaille sur ses avatars, qui travaille à les rendre de plus en plus crédibles, ou de moins en moins crédibles, d'ailleurs l'abstraction fait aussi partie de la nuance, et en tant que personne transgenre, la nuance, c'est quelque chose que j'ai tendance à priser énormément, et si on a pu voir une volonté de rendre romantique l'androgyne dans l'Antiquité, et même aujourd'hui, à travers certains mangas, d'ailleurs c'est assez paradoxal, on en parlait il y a pas longtemps, de voir qu'il y a énormément de jeunes réacs en ligne qui ont des avatars, en tout cas sur les forums, des photos d'avatars d'idoles japonaises ou de personnages de manga japonais, ou comme l'androgynie, là ça marche, et ce sont les pires transphobes de la Terre, quoi. Alors là on peut parler de répression, après je pense qu'on peut ouvrir un truc psychanalytique là-dessus, j'en sais rien, mais moi je pense que c'est important de dessaisir aussi le côté de l'auteur, en fait. Il est important de se tourner vers les utilisateurs et les utilisatrices, de voir comment est-ce que les nouveaux médias et la virtualité permis de réinvestir des corps nouveaux, parfois complètement normalisés, c'est pas un problème. Moi j'ai été une femme cis longtemps dans Second Life, il y a pas de problème. Il fallait que je passe par là aussi avant d'accepter d'être nuancé aussi, et pourquoi pas, je pourrais aussi ne plus être nuancé plus tard, quoi. Mais voilà, je voulais juste ajouter cette petite différence sur le jeu vidéo n'est pas simplement le jeu vidéo d'auteur, le jeu vidéo est aussi le virtuel, et le virtuel c'est ses utilisateurs et ses utilisatrices, et c'est un moyen pour les militants, et c'est un moyen pour les individus d'exister aussi et de remettre en cause des choses. Voilà.
Merci. J'aimerais me tourner vers le public pour une ou deux questions avant de relancer la réflexion, mais s'il y a déjà une ou deux questions sur les points qui ont été posés, il y a une question là. Merci. Selon le temps de réponse des invités, ça sera plutôt une ou deux. Et je rouvrirai les questions à la fin aussi.
Bonjour, merci. Vous nous avez bien parlé, présenté la façon dont dans la culture populaire et la culture en général, le corps féminin a longtemps et toujours présenté comme, soit a été invisibilisé, soit présenté comme stéréotypé ou opprimé. Et j'aurais aimé savoir pour vous aussi s'il y avait, donc quels ont été au contraire les exemples de personnages, soit dans le jeu vidéo ou dans la littérature ou peut-être dans d'autres médias, de corps féminins qui ne sont pas tombés dans ces écueils-là, qui ont fait avancer la représentation du corps féminin dans les cultures de l'imaginaire. Et je voulais aussi demander si la figure de l'Amazone et ses déclinaisons étaient importantes dans cette optique-là.
Donc une double question, en fait, puisqu'il y a la question du statut de la figure de l'Amazone qui va pas forcément se superposer à la question de quelle œuvre ou quelle figure vous semble être un traitement, offrir un traitement adéquat, enfin remarquable, intéressant, la question du corps féminin. Personnellement, j'aurais tendance à parler de la main gauche de la nuit, mais pour des raisons un peu particulières.
Moi, j'aurais aussi tendance à citer celui-là parce que il nous fait prendre conscience, parce que nous le lisons toujours, il nous fait prendre conscience du fait que le corps est une construction sociale, beaucoup, dans son genre, et que le sexe n'est pas nécessairement l'élément déterminant. Par ailleurs, pour encore Le Guin, moi, un des personnages de femme qui m'a vraiment plu, touchée, et que j'ai trouvé bien rounded, bien achevé, c'est celui de Tehanu, parce qu'elle évolue de ténard, jeune, relativement passive, comme on le faisait remarquer dans le documentaire qu'on a vu hier, à une femme qui a été femme dans son corps, qui n'est plus cette variété-là de femme, qui est devenue, qui a été la Vierge, qui a été la Matrone, qui est devenue The Crone. Et vous remarquez qu'il n'y a pas de terme. Est-ce que vous pourriez me proposer un terme en français pour traduire crone qui ne soit pas le vieillarde qui est péjoratif et qui ne soit pas sorcière qui est également péjoratif? C'est tout un boulot de récupérer sorcière de façon positive. Enfin, c'est vraiment la tasse. Donc, elle est maintenant au stade où elle est sage, où elle est forte et où elle est dans son corps bien. Et dans la mesure où Le Guin n'insiste pas là-dessus, vraiment, on a l'impression que pour elle, il est naturel d'être ce qu'elle est, c'est-à-dire vieille. Et excusez-moi, mais dans notre société d'aujourd'hui, c'est pas perçu comme naturel d'être vieille. C'est ça.
Mais je ne peux que vous orienter aussi vers la lecture de Chronique du Pays des Mers, qui me semble tout à fait dans le sujet de ce point de vue-là et dans la compréhension de, justement de la relation d'une femme à son corps dans une société particulière. Bon, je ne vais pas développer, mais sauf si vous souhaitez le faire. Mais,
voilà. C'est-à-dire que c'est une société où les femmes ne sont pas vraiment propriétaires de leur corps pendant toute la période où elles sont fertiles. Ce n'est pas la servante écarlate. Non. Je l'ai écrit avant, d'abord. Et d'autres femmes avaient écrit sur le motif de la servante écarlate avant Suzy McKechnas, pour ne citer qu'elle. Mais on n'est pas propriétaire de son corps parce que le truc est biaisé, parce que c'est dans une société post-apocalyptique où les ressources sont rares, où les naissances où les naissances masculines sont très très rares, où la mortalité infantile est élevée. Donc j'ai biaisé le jeu là. Parce que parce que d'abord. mais à un moment donné, mais elles ont un rapport très curieux parce que c'est un rapport qui me semble relativement distant. Elles ont des enfantes, mais ces enfantes ayant une forte mortalité infantile, pour ne pas causer trop de détresse aux mères, les enfantes sont pratiquement invisibles jusqu'à l'âge de 7 ans. Après 7 ans, ça passe ou ça casse. Si ça casse, bon, mais si ça passe, elles sortent et là, elles peuvent choisir leur mère, qui ne sera pas forcément leur mère biologique, et inversement, on n'est pas obligé d'avoir des rapports avec ses enfants. Et ensuite, elles sont libres à partir du moment où elles ne sont plus fertiles, c'est-à-dire vers 32, 35 ans, parce qu'il y a aussi un problème de fertilité. Les hommes et les femmes sont également libres, et là, ils deviennent ce qu'ils veulent. Pas physiquement, parce qu'ils ne peuvent pas changer, les métamorphes, c'est une autre, pas encore. Mais ils peuvent être libres. Donc c'est ça, oui, effectivement, il y a un rapport particulier au corps. Là. Mais relativement cliché, quand même. On est des mères, mais les pères ne sont pas des pères. Bon.
David Javé.
Alors sur ce final, c'est peut-être un peu dur de rebondir sur mon exemple à moi dans mes objets de recherche, mais on parle souvent dans le travail de Otomo, donc qui a dessiné et scénarisé Akira. J'ai été très marqué par un de ses mangas qui s'appelle Mother Sarah, qui justement va mettre au cœur du récit, dans un récit post-atomique, une figure de mère. Et sa quête. Et donc ça, je vous invite à disons, réinvestir ce manga qui se cache un peu dans l'ombre d'Akira.
C'est un personnage qui a tout de même qui est particulier dans sa représentation du féminin, dans la mesure où on a vraiment un personnage de femme doté d'une force assez spectaculaire. Qui pour le coup n'est pas conformée justement comme enfin disons elle n'est pas conformée comme un certain nombre de justement d'avatars de type Lara Croft première manière. Enfin il y a aussi cette disons ce refus d'un certain idéal de beauté féminin. On n'a pas parlé de l'impératif de la beauté.
De l'impératif de
voilà, de,
beauté,
de l'impératif ouais. De la beauté, de la contre. Mais c'est parce que c'est évident, mais on n'en a pas parlé ouais. dans sa dynamique. de justement de regard masculin. Et c'est effectivement un exemple intéressant de ce fait-là, par la volonté délibérée de
d'autant plus à une époque où vous avez non seulement la sortie d'un manga comme Kin Nikuman, qui est un manga de catch qui marche extrêmement bien, on a des corps musclés masculins nus systématiquement. On pense aussi à Ken le Survivant, Rukuto no Ken, où systématiquement aussi il y a une sorte de glorification. On est en plein dans la période Arnold Schwarzenegger, culturalisme, non culturisme. Fou, tout se mélange. Et puis au niveau du jeu vidéo, alors le corpus est évidemment beaucoup plus grand. Moi, je pense à deux choses. Je pense c'est déjà il y a une œuvre d'un couple belge qui s'appelle Tale of, enfin le studio s'appelle Tale of Tales et le jeu s'appelle The Graveyard et c'est un jeu très court où on joue justement un personnage de Crone, on va dire. Enfin, ce qui me semble être ça, qui va uniquement payer ses hommages dans un cimetière, en fait. On a quelque chose qui est très réflexif, qui est vraiment sur l'assimilation de la marche, de la lenteur, de la construction, d'un élément aussi assez paisible. Donc voilà, ça c'est un jeu qui est gratuit et qui est tout à fait accessible. Et puis je vous redirige aussi vers les travaux, d'autant plus que maintenant elle enseigne ici à Nantes, de Marion Coville, qui a écrit des d'excellents articles sur la figure de Bayonetta dans le jeu vidéo. Je dirais alors au niveau du Japon, j'ai l'impression comme disons la structure industrielle, particulièrement dans le jeu vidéo, mais aussi dans le manga et dans l'animation, est extrêmement très forte. Il y a une standardisation très violente des formes et des figures. Je pense que à bien des égards, les formes de la révolte doivent s'inscrire dans une tension, en fait, plutôt que justement de proposer des alternatives, ce qu'ils ont profondément du mal à faire. Ils vont plus inscrire ça dans justement une exagération. Bayonetta en est un très bon exemple, dans une exagération, dans une sorte de regard caméra, en fait, face justement à la joueuse et au joueur, pour le mettre face justement à ces problématiques, plutôt que de proposer malheureusement une alternative qu'on ira plutôt chercher dans des productions plus petites, peut-être plus dures à trouver, moins visibilisées, qui vaudrait la peine aussi d'être allé creuser.
Et justement, dans le prolongement de cette réflexion-là, quelles seraient à votre avis les pistes justement envisagées pour déplacer les différentes contraintes, y résister? Quels sont les modes de résistance en termes d'écriture? Est-ce que ça passe par une prise de conscience par les créateurs? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui de ce point de vue-là est intériorisé, trop intériorisé du point de vue de la création? Est-ce que ça passe par des techniques spécifiques? Je pense, j'ai essayé de trouver des exemples de personnages féminins dont on disait qu'ils étaient un peu plus élaborés, un peu plus pour le visuel. Il y a quelques figures féminines, alors peut-être pas celle-là, quelques figures féminines qui sont un peu plus élaborées actuellement. Mais rien que justement le commandant Shepard, le fait, la possibilité de créer ces avatars soi-même. Et le fait que finalement le fait d'avoir le commandant Shepard dans Mass Effect, la série Mass Effect, qui soit au féminin ou au masculin, même si on reste enfermé dans cette binarité, mais en tout cas au féminin, masculin, et que quelle que soit finalement cette position-là, les actions du personnage sont strictement les mêmes, ses capacités sont strictement les mêmes. Les seuls points où, de façon, les seuls points où ça bloque encore, c'est que toutes les relations entre personnages en termes de romance ne sont pas tout à fait possibles. Mais encore, Sabrina Calvo voudra réagir, oui.
Oui, ok, c'est bon. Ouais, j'ai un truc à dire sur Mass Effect, c'est très intéressant. Alors Mass Effect, faut savoir, quelqu'un parlait ce matin en conférence, dire c'est bien beau la diversité, mais encore faut-il vendre des jeux aux mâles américains blancs, ok? Et malheureusement, c'est horrible d'entendre ça dans une conférence SF, mais bon, whatever. Mais en même temps, on peut jouer Shepard de deux manières, on peut le créer comme on veut, mais sur la couve qui est vendue, c'est Shepard homme qui vend le jeu, que les choses soient claires. Et autre chose dans ce jeu qui est très intéressant,
ils ont un tout petit peu développé leur marketing sur les Mass Effect suivants.
Ouais,
mais c'est vrai que c'est massivement l'homme et notamment dans les pubs,
ouais. Ouais, non, mais bon, voilà. Après, voilà, Ubisoft aussi commence à travailler sur la question de la représentativité, de la manière de vendre. Ils se rendent compte que, tiens, 50% des joueurs sont des femmes. C'est surprise. Mais le truc, c'est que, dans Mass Effect, on peut, et ça a été d'ailleurs un grand moment de télévision quand un mec de BioWare est allé au journal de 20h pour dire qu'en fait, on pouvait avoir des relations sexuelles dans le jeu avec des extraterrestres. C'est super intéressant, quoi. Et, ça a été un moment clé, en fait, de l'histoire du jeu vidéo, ce truc-là. Mais enfin, ça reste quand même, même si c'est des choses qui sont, ça reste quand même humanoïde, ça reste quand même, enfin ça reste normé dans la normalité, enfin j'aime pas ces mots là mais voilà, on n'y est pas encore tout à fait et il y a énormément de choses à faire. Et si vous voulez vraiment faire sauter un verrou, c'est il y a le verrou économique qu'il va falloir faire sauter, parce que la diversité des créateurs et des créatrices c'est une chose, les techniques d'écriture et les techniques de machin c'est une autre chose, mais le monde socio, la réalité socio-économique dans laquelle on vit et le système politique dans lequel on vit fait que on n'a pas intérêt à faire ça en fait, quoi. Donc le verrou il est principalement là, arrêtons de faire porter surtout la charge aux créateurs. C'est voilà. Non, je dis pas que c'est non, je dis pas que c'est ce que vous dites, hein, pas du tout. Je dis que si on a une technique et s'il y a une socialité, c'est il faut tout faire sauter en fait.
On a marginalement un petit peu plus de liberté quand même au niveau de l'écriture qu'au niveau du visuel, parce que on procède par, on compte sur les inférences faites par les lectoristes, et on n'a pas à décrire en long, en large, en travers les corps. On peut juste disposer des indices et laisser les lectrices et les lecteurs s'impliquer personnellement dans le bidule. Encore faut-il que ces personnages aient un corps, qu'ils soient un corps. Parce qu'avoir un corps... ces dernières années, je me suis prise à me corriger à peu près systématiquement lorsque le personnage réfléchit qu'elle a un corps... Je le modifie à « elle est un corps ». Je ne sais pas ce que ça signifie profondément, ça doit sûrement vouloir dire quelque chose, mais je préfère la deuxième formulation. Nous sommes des corps. Nous sommes des corps. Il n'y a pas de séparation, ce n'est pas une possession, ce n'est pas une propriété. Nous n'existerions pas sans nos corps. D'où les dérives et délires transhumanistes qui me font tous me rigoler. Bon, voilà.
Moi, ce que je rajoutais à ça, je suis évidemment tout à fait d'accord avec Sabrina sur l'idée que l'utilisateur doit être réinjecté à l'intérieur, en fait, du discours. C'est pour ça que c'est extrêmement bien qu'on ait ici un pôle ludique, que l'utopie, elle se construit aussi dans le jeu de rôle, elle se construit aussi dans le jeu de rôle grandeur nature, que cette réappropriation, hein, on a, enfin, en tout cas, moi, je viens de la génération télévision à fond. Et là, l'utilisateur est complètement expulsé, du produit, et on rentre dans quelque chose de différent une fois que justement on commence à créer des structures ludiques et à les repenser par rapport à ça. Et il y a des objets, enfin, pour trouver des solutions, je suis à chaque fois un peu frustré de voir les potentialités qu'offre par exemple la réalité virtuelle, les cases de réalité virtuelle, et les seules manières qu'on a de les penser, c'est dans des réseaux d'appropriation qui sont très normés, alors qu'en fait on a un outil phénoménal de changement de point de vue. La VR, c'est la possibilité de transformer un point de vue de la manière la plus simple possible. Vous pouvez prendre un casque de VR, vous mettez sur le casque de VR une caméra avec le feed d'un autre casque de VR, et vous pouvez tout simplement aussi vous promener avec le feed visuel de quelqu'un d'autre. Et imaginez tout ce que vous pouvez construire autour de ça, comme vraiment dans la pratique et dans le ludique, transformation du point de vue. Et plutôt que de proposer systématiquement des promesses d'immersion dans un univers fantastique et de réactiver les discours du jeu vidéo éculés et autres, alors que là on a un objet qui peut être transformé, qui peut être hacké, qui peut être modifié de manière, à mon avis, techniquement très simple. Et puis quelque chose à laquelle il faut se préparer, parce que je pense que ça va arriver chez nous dans pas longtemps, c'est les youtubeurs virtuels. Et ça va provoquer, à mon avis, aussi un raz-de-marée. Enfin, c'est très fort. Probablement, c'est déjà arrivé. D'ailleurs, certains d'entre vous vont me dire, mais il y en a déjà depuis longtemps en France. Mais c'est un phénomène assez important en Corée et au Japon, dû en partie à l'accessibilité maintenant d'outils de modélisation en 3D qui avant étaient accessibles aux développeurs de jeux vidéo, qui savaient les manipuler, qui travaillaient avec des gens qui conceptualisaient des moteurs de recherche, donc ils pouvaient déterminer.
Mais donc qu'est-ce que ça implique exactement, un youtubeur en 3D, pour que
alors,
ce soit bien clair
pour,
ouais,
tout pour le monde. Que ce soit bien clair, donc vous pouvez composer intégralement, modéliser intégralement en 2D ou en 3D un personnage. Et puis après, vous appliquez ce personnage à vos mouvements sur la caméra, c'est-à-dire qu'en réalité, les vidéos que vous filmez et que vous mettez sur YouTube sont en fait votre personnage, votre idole qui parle. Vous pouvez modifier votre voix, vous avez la possibilité de transformer complètement ce rapport en fait à l'image et de le recomposer justement à travers ce corps imaginaire.
Une espèce de métamorphie technologique alors.
C'est ça, ouais.
Oh yeah.
Et qui est dû à une démocratisation des outils de modélisation en 3D. Et là, je vous invite à regarder un très très beau reportage qu'a fait Anne Ferrero sur YouTube, sur une chaîne qui s'appelle Archipel, sur justement ces idoles virtuelles, ces youtubeurs et youtubeuses virtuelles au Japon. Et là, il y a des choses très très intéressantes qui vont se passer à ce niveau-là, à mon avis, au niveau de la transition des imaginaires.
Et on retrouve un petit peu le type de possibilité qui était évoqué tout à l'heure par Sabrina Calvo sur la possibilité de se construire une identité justement par la prise de contrôle d'une image en ligne. C'est une possibilité. J'imagine qu'il y a énormément de stéréotypes ou de choses qui vont entrer en ligne de compte dans ces vidéos YouTube. Mais est-ce que il y a une autre question que je pense qu'il y en a beaucoup. Alors une, deux et trois, et on verra si on a le temps pour plus tard. Ça, c'était la deux, mais c'est pas grave. Alors,
on a mis longtemps à répondre à la première.
Ce sera pas une question, c'est une très courte intervention. C'est notamment pour Elisabeth à propos des personnages féminins âgés. Je sais pas si vous avez lu un livre qui s'appelle Les femmes de la préhistoire de Claudine Cohen, qui en fait parle de l'image des femmes, donc à travers les objets qu'on a récupérés de la préhistoire, qui sont souvent des corps de femmes avec des formes très généreuses qu'on a souvent à tort interprété comme étant des symboles de fertilité, alors qu'en fait ça représente plus une fertilité passée, et donc ça représente un état de la femme à un âge avancé qui est, comme vous l'avez dit, sachante et qui va avoir un savoir et qui va être en capacité de le transmettre. Et donc elle fait un peu tomber les préjugés sur la position sociale de la femme, et notamment de la femme âgée, qui a encore une fonction très importante au sein des sociétés et des voilà.
Dans les sociétés amérindiennes, canadiennes en particulier, ce sont les mères qui détiennent le pouvoir. Et il y a une image, à un moment donné, il y avait eu toute une révolte indienne pas loin de Québec, et on avait les jeunes guerriers tout énervés avec des mitrailleuses, et enfin un face-à-face assez féroce avec la police. Et là, on voit arriver une des mères, une espèce de petite chose plus petite que moi, qui arrive, qui regarde le petit gars. Ok, et c'était passé. Je n'ai pas lu le bouquin, mais j'ai vu plusieurs documentaires sur la question. Effectivement, oui, il y a un rôle. Il y a ce rôle de la femme dans beaucoup de sociétés encore. C'est la femme âgée qu'on va voir. C'est la femme âgée qui détient l'expérience. C'est les anciennes. Et c'est tout un savoir, tout un héritage qu'il faut garder si on veut, si la tribu doit survivre. Enfin bon, parce que sinon, les anciennes et les anciens. Non. C'est ça, oui. Redites-moi le titre de ce bouquin. Les femmes de la préhistoire. Ok, merci.
C'est pas mal pour comme traduction pour The Crown, l'ancienne.
Oui, oui, c'est ça, l'ancienne, effectivement. Oui, d'ailleurs, c'est souvent comme ça qu'on l'utilise dans la science-fiction et la fantasy.
Bonjour. On a parlé du coup du corps de la femme qui est très souvent, quasiment tout le temps jeune, quasiment tout le temps cis aussi. On n'a pas parlé du corps de la femme qui est aussi toujours blanche, toujours mince, toujours valide. Donc voilà, je pensais que c'était quand même important de revenir là-dessus. Et je ne sais pas si vous avez des exemples intéressants, parce que personnellement, j'ai quand même pas l'impression que ça bouge beaucoup. À part dans des productions vraiment indées bien cachées sur Internet, on va dire.
Au niveau de l'écriture, en tout cas,
beau panorama de.
Ouais. Au niveau de l'écriture, il y a tout un tas de femmes qui écrivent maintenant et qui sont des femmes exotiques. Alors les Américains se jettent dessus parce que c'est la grande mode en ce moment. Alors elles viennent d'horizons divers, elles ont des noms exotiques et elles sont publiées quand même. C'est un fade, ça va passer. Mais pour l'instant, on en profite et donc elles mettent en scène des femmes qui ne sont pas des blanches, qui sont souvent pas des hétérosexuelles. Et donc, il y a quand même une visibilité augmentée de ça. Je reprends Le Guin, parce qu'après tout, on s'occupe de Le Guin aussi un petit peu dans ses utopias. Elle rendait ses personnages systématiquement bruns, colorés, Et j'ai essayé de faire la même chose, puisque je suis une horrible copieuse, dans la chronique du Pays des Mers, les gens sont bruns. Il y a très très peu de blancs. Et on les remarque. C'est un trait génétique qui est en train de se perdre. Et il y a une noire qui vient de plus au sud. Elle aussi, on la remarque, parce qu'elle n'est pas dans la moyenne. Il y a une autre normalité qui s'est établie. Mais effectivement, de toute façon, les généticiens nous disent que l'avenir de la race humaine n'est pas d'être blanc. Enfin bon, c'est ça. Alors effectivement, il y a là quelque chose. Il y a un moment, là. On est dans un moment. Je ne sais pas combien de temps il va durer. Mais dans la littérature de genre, en tout cas dans celle que je lis, qui est forcément biaisée parce que je lis ce qui m'intéresse et je suis biaisée, j'ai l'impression qu'il y a davantage. Il y a une porte qui s'est ouverte là. Et dans le visuel, ça donne quoi ?
C'est toujours assez complexe. En fait, j'ai toujours un petit peu. On voit Aveline de Grandpré de Assassin's Creed qui passe maintenant en boucle sous nos yeux. C'est toujours un petit peu difficile en fait de citer dans des grosses productions d'Ubisoft ou autres du jeu vidéo. Enfin, de célébrer l'arrivée de ces personnages, parce qu'on comprend bien quand même derrière qu'ils arrivent aussi parce qu'il y a une logique économique, parce qu'il y a aussi une logique industrielle derrière. Donc, la célébration par la presse est évidemment positive, parce que ça pousse, disons, la pression est continue et on invite à prolonger le mouvement. Mais la célébration ne doit pas s'arrêter là, en fait. On ne doit pas uniquement derrière, on a quand même des intérêts qui sont des intérêts quand même de cocher des cases, hein. Et on le voit beaucoup avec Assassin's Creed. Je visibilise quand même Assassin's Creed, mais enfin bon, voilà, parce que c'est un bon exemple. On a l'épisode à Paris où le discours officiel c'est on n'a pas pu mettre de personnages féminins parce que ça prend trop longtemps à animer, à modéliser, on n'avait pas envie de le faire et autres. Malgré le fait qu'on ait un mode multijoueur avec par contre là plein de corps masculins qui s'affrontent. Les uns les autres. Et puis tout à coup, grand retournement, et pour ça les conférences de l'E3, qui est le grand salon du jeu vidéo, sont flagrantes. C'est une célébration immense, on doit les applaudir, on doit se lever sur nos chaises au moment où tout à coup ils nous annoncent qu'enfin, on peut jouer un personnage féminin. Donc c'est très très dangereux de citer ces objets et de dire regardez comme c'est bien, enfin on y est. Parce qu'on joue aussi un peu le jeu industriel, on joue un peu le jeu économique. Et il faut jamais oublier aussi de rappeler ça. Ils le font parce que ils savent que derrière il y a de l'argent. Ils voient, ils lisent, ils voient.
Est-ce que c'est la même chose pour les personnes de couleur ? Parce que là aussi il y a un marché.
Ah bah évidemment, oui. Enfin, la mise en avant de Michonne, par exemple, dans The Walking Dead, on est aussi là-dedans. Alors c'est évidemment extrêmement positif. Alors, moi, sur mes objets de recherche. J'ai un gros problème parce que au Japon, on est face aussi à des discours où eux-mêmes, notamment dans la filiation liée au discours sur les Japonais, qui sont des discours de nationalisme et d'essentialisme culturel, ils prennent plaisir à ce qu'on les définisse par la différence et l'altérité. Donc, ils ont tout à y gagner, en fait, à présenter la culture japonaise, et nous-mêmes, on reconduit beaucoup ces discours, comme une culture de la différence, comme une culture de l'altérité. Et surtout aussi à s'extraire du reste de l'Asie. Donc, il y a des vrais problèmes pour les objets japonais, qui, en réalité, une fois qu'on va dans le détail, on voit qu'ils ont des formes de transnationalisme immenses, qu'on a énormément de Vietnamiens, de Coréens, de Chinoises et de Chinois qui travaillent sur ces objets. Mais voilà, on les présente, on les stigmatise, on dit, voilà, ça c'est un objet japonais, l'animation japonaise, et on va vraiment mettre le tampon national de manière très forte là-dessus, qui, pour le coup, eux, nourrissent justement leur discours d'homogénéisation culturelle et d'essentialisme culturel. Donc là, on est encore face à un autre problème qui est aussi, bah, pour le coup, qui a contribué aussi à invisibiliser les sino-américains, tout ce qui est aussi le spectre côté Asie.
Alors, je ne sais pas si vous avez vu cette merde de Blade Runner 2049, mais qui stigmatise la normalisation hétéro et l'invisibilisation des corps exotiques, comme on va dire. Mais il suffit d'aller regarder dans le hall l'exposition qu'on a à l'entrée de ce festival, qui par ailleurs est un festival diversifié et est un festival qui fait beaucoup d'efforts pour rendre ça visible. Mais on a quand même une stigmatisation de la femme, on a une stigmatisation du corps de la femme et du corps de la femme exotique, encore une fois, qui nous accueille à l'arrivée. On a quand même une tête complètement caricatural, défoncé aux dents, défoncé avec marqué Coca-Cola sous la peau, qui est quand même ce qui nous accueille à l'entrée du festival. Et je pense qu'il y a énormément de choses à faire pour réussir à dessaisir, si vous voulez, les mondes, l'entertainment du facteur exotique pop. Ah ouais, non mais c'est pop, les japonaises, les blagues, c'est trop bien, on va leur enlever un sein là, et puis mais bon, c'est quand même un truc de la... Voilà. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, je pense que c'est encrouté, si vous voulez, dans la pratique de l'imaginaire que d'imaginer ces corps féminins et exotiques de la même manière, et parce que c'est cool, parce que c'est pop, parce que c'est comme ça, parce que c'est la tradition, parce que l'âge d'or de la SF l'a fait et qu'on continue à le faire sans se poser de questions, quoi.
Alors, une courte question et une courte réponse.
Ça va pas être court, donc c'est pas grave.
Ah, d'accord. Mais si, essayons toujours, on se rend pas compte.
Vous évoquiez Bayonetta tout à l'heure comme un exemple de... je suis pas sûr d'avoir exactement compris, en fait. Vous évoquiez Bayonetta comme une tentative de repenser le corps féminin dans le jeu vidéo japonais, alors que, enfin, en mettant le public face aux débauches entre guillemets du milieu, mais finalement, il me semble que c'était le youtubeur américain Ben Yatsi Crochot qui parlait de ça sur Lollipop Chainsaw. Certes, vous avez créé un personnage féminin fort, puissant, qui a énormément qui fait ce qu'elle fait avec plaisir et avec énormément d'indépendance, mais c'est pas parce que vous avez créé un personnage puissant que sa sexualisation n'est pas présente et que ce n'est pas un problème et que vous ne rentrez quand même pas dans la logique.
Bayonetta en 30 secondes.
Alors je suis plus que oui, je suis tout à fait d'accord. Disons, l'exemple de Bayonetta, je le convoquais. Il faudrait pour ça effectivement discuter avec Marion Coville, qui elle a beaucoup travaillé sur l'hypersexualisation du personnage. Je le citais plus en fait dans l'idée de montrer que à travers le processus industriel de création du jeu vidéo, en gros, les formes de la révolte ne peuvent se trouver que dans une extension, en gros, de la norme déjà établie, plutôt que dans réellement en fait des propositions alternatives. Et puis après, tout reste à définir par rapport au personnage de Bayonetta, s'il s'agit effectivement réellement de quelque chose qui règle les problèmes ou pas. Enfin, comment le personnage fonctionne, ça c'est quelque chose qui mériterait une table ronde toute entière, j'espère.
Bien, alors merci à tous et à toutes, merci à nos invités, et vous pouvez poursuivre ces réflexions avec eux et elles en dédicace dès à présent, en profitant de ce qu'il y en a encore, puisque malgré tout, le festival arrive vers sa fin. Donc saisissez l'occasion. Voilà, bonne journée et bonne fin de festival.